gris, rouge. Terre accoucheuse de forme, terre accoucheuse de vie, la glaise craque et s'écaille et de la glaise fuse un cri. Sera-t-il coq à crête rouge? Sera-t-il coquelicot fleuri? L'animal et la plante luttent vers leur destinée mûrie. L'oiseau est lié au mammifère, la fougère s'incruste au granit. Resteront-ils monstres des mers, ornithorynques, chauves-souris? Les fleurs mauves mordent les pierres, les racines au silex se lient. Les galets ont des dents acides et les coques des dents sanguines. Les pattes des poissons s'écaillent, les coquillages ont les bras brandis. Qui saura, à marée basse, créer musique et bergerie? La troupe est disparate et l'orchestre est insoumis. Demain, l'homme naîtra peut-être, mais où sont ses formes aujourd'hui? Cobra, numéro 7, 1950. L'art abstrait a créé un espace nouveau. D'abord espace pictural sans contenu. Le rôle des peintres d'aujourd'hui est de garnir cet espace de formes vivantes. Il est bien évident que lorsque je parle de forme vivante, je n'entends pas forme naturaliste. Je souligne seulement la différence de conception et de résultat qui sépare les abstraits géométriques, ne laissant rien au hasard, mesurant, se livrant à des calculs mathématiques suivant les lois de la section d'or, et les peintres non figuratifs, plus jeunes et plus actuels. Atlan exprimait leur conception du tableau lorsqu'il répondait à Aimé Patrie, qu'il interviewait pour la revue Parue en mai 1948. Je crois que l'on pourrait dire que dans le même esprit où Mallarmé recommandait au poète de céder l'initiative aux mots, le peintre non figuratif sera celui qui aura accepté de céder l'initiative aux formes, aux couleurs et aux lumières sans partir d'un sujet préétabli. Cette démarche initiale étant acceptée, il importe assez peu que le résultat ressemble à quelque chose ou à rien de connu. Et répondant à l'enquête des Lettres françaises sur l'art et le public, Atlan affirmait avec sa lucidité coutumière « L'important pour un peintre, ce n'est pas la vision de la réalité, mais bien plutôt la réalité de sa vision. L'imagination plastique peut créer des formes qui, pour être mystérieuses et inédites, n'en sont pas moins tout aussi réelles et concrètes qu'un arbre ou qu'un œuf. » Plus près des précolombiens est certainement Atlan au bestiaire fantastique. Il y a chez lui un esprit cruel, un sens magique des formes qui l'éloigne de l'abstraction, le laissant à ce point de confluence où irréalisme et non-figuration se rencontrent. Ces formes peintes sont celles d'un monde en gésine, du chaos des premiers jours de la création où, dans la masse mouvante, le minéral, le végétal et l'animal sont encore liés à une même glaise, où bêtes et plantes se confondent et luttent entre leurs formes qui se déchiquettent vers un ordre canonique. Atlan, c'est l'intrusion dans l'école de Paris, de l'Afrique, de ses cactus, ses dents de saurien, son tam-tam lancinant et cruel. On a dit des poèmes de René Char, comme de ceux d'Hölderlin, qu'ils constituaient l'essence du poème. Le même terme conviendrait à l'analyse d'un tableau d'Atlan. Est-il possible de savoir si ce cri rouge est le chant du coq, la blessure d'un dragon ou le coquelicot épanoui? Ce monstre est-il poisson, oiseau, plante ou mammifère? C'est l'esprit du cri, c'est tout l'animal et l'homme aussi sans doute, déchirés par les dents des cactus carnivores. Et si j'évoque des animaux et des plantes, des coquillages et des poissons, lorsque je parle de la peinture d'Atlan, c'est que cet artiste, à l'encontre des purs abstraits, ni ce fétichisme qui fait repousser comme anecdotique toute peinture, où une parcelle de réalité, si minime soit-elle, est évoquée. Les formes non figuratives d'Atlan, si elles ne ressemblent à aucun animal, à aucun végétal connu, constituent néanmoins une faune aussi sensuelle que les feuilles ou les pierres de Van Gogh. Je place Atlan ici, seul, car il est de ces inclassables qui, s'ils subissent le style de leur temps, reste cependant isolé comme sont isolés Jérôme Bosch, Soutine ou Chagall. L'architecte et le magicien, 1951.